Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une pause éducative sur quel est le rôle d'une grand-mère. En effet, pour moi, quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte, ça a été une immense joie. Et puis après, plein de questions. Quel est ce rôle que nous devons prendre quand nous devenons grand-mère? À quoi sert-on? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer? Comment ça va se passer aussi? Est-ce qu'on va s'attacher à ce petit être qui va naître autant qu'à son enfant? Parce que forcément, c'est totalement différent. Est-ce que l'amour sera pareil? Qu'est-ce qu'on peut aussi apporter à notre fille ou à notre fils qui nous emmène dans ce rôle de grand-mère? Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et comme je le dis souvent, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer la formation 0-3 ans qui est proposée par notre organisme de formation Apprendre Montessori, parce que pour moi c'était une façon d'aider ma fille dans ce futur rôle de maman qu'elle allait avoir, de rechercher tout ce qu'on pouvait mettre en place pour ce petit enfant qui allait naître entre 0 et 3 ans, tout ce que Maria Montessori et les personnes qui travaillaient avec elle avaient observé, tout ce qui semblait être le mieux au moment de la naissance de ma petite fille et que l'on pouvait mettre en place autour de ce petit enfant et pendant 3 années. Donc c'est à ce moment-là que j'ai recherché partout tout ce qui pouvait exister, bien sûr, pas que Montessori, mais aussi Picler, mais aussi l'éducation bienveillante, l'éducation positive, quel environnement on pouvait mettre en place, comment s'occuper des repas, du coucher, parce que les choses avaient énormément évolué depuis la naissance de mon dernier enfant. Et puis, je voulais garder un côté très objectif, hein, pas transmettre ce que moi j'avais fait forcément, qui n'était pas évidemment bon à 100%, j'avais fait avec le cœur, mais pas forcément positif à 100%. Donc j'ai cherché d'une façon neutre tout ce que je pouvais trouver autour pour offrir à ma fille pour sa petite fille. Mais ça c'est une chose. Et après, quel est le rôle que on a envie de prendre, qu'on a envie d'offrir à ce petit enfant qui va naître et aussi à nos enfants qui deviennent parents à leur tour. Donc bien sûr, tout le monde dit c'est un rôle de transmission, donc ça c'est sûr. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les grands-mères ont une position sociale qui est bien différente de ma grand-mère à moi, par exemple, à cette époque, les femmes ne travaillaient pas énormément, même si moi j'avais une grand-mère professeure de piano et une autre qui travaillait à la banque, mais elles avaient beaucoup plus de disponibilité que moi, par exemple, qui suis dans la vie active et que plein d'autres grand-mères qui sont des jeunes grand-mères de 45, 50 ans, 55 ans, même plus, et qui sont toujours dans la vie active et qui donc ne peuvent pas avoir le rôle qu'avaient nos grands-mères. Je trouve que ce rôle a beaucoup évolué et c'est pour ça que je me posais plein de questions et il n'existe pas beaucoup de livres sur le rôle d'une grand-mère. Donc ce qui est bien, c'est le fait que nous sommes encore beaucoup dans la vie active, c'est qu'on est vraiment au fait de l'évolution de la société, Internet, les réseaux sociaux, la dernière expo, les dernières émissions à la mode, les derniers musiciens, le dernier livre qui est sorti, les voyages passionnants, on voyage, on voit des choses. Donc ce qui est bien, c'est que quand l'enfant va grandir, on n'est pas si loin de ça que sa vie, et donc quand le petit enfant sera adolescent, on va justement pouvoir partager toutes ces choses-là et aussi quelque part devenir une sorte de confidente, puisqu'évidemment le rôle que l'on a auprès de nos petits-enfants va énormément évoluer entre un très jeune enfant et un petit enfant qui devient adolescent. Donc ce qui est sûr, c'est que le rôle de grand-mère est beaucoup plus léger que celui de parents, puisqu'on n'a pas à prendre en charge l'éducation, on n'a pas l'angoisse de l'avenir, on a beaucoup moins de responsabilités par rapport à cet être qui vient d'arriver, beaucoup moins aussi d'angoisse, même si parfois on se fait un peu de soucis pour ce qu'ils vont devenir, mais on n'est pas le maître à bord, on n'est pas en première ligne, et donc ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus légères. Ce qui est plus difficile, je trouve, moi personnellement, c'est que par contre, on doit respecter, je pense, quoi, absolument l'éducation qui est donnée par nos enfants à leurs enfants, même si parfois on n'en partage pas forcément le choix, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'aller contre, on n'a pas le droit de critiquer, on est vraiment pas là pour ça, on est là pour soutenir, mais parfois c'est difficile parce que justement on partage pas certaines valeurs, mais qu'on doit quand même aller dans le même sens auprès de nos petits-enfants. Et ça, c'est un rôle, c'est une tâche que je trouve qui n'est pas toujours facile, ou alors on assiste à certaines choses et parfois on doit surtout se taire, même pour le bien du petit enfant, et puis parce que son enfant n'est pas prêt à l'entendre. Parfois on a la possibilité de le dire, mais il faut le dire avec des mots pesés, parce que notre enfant est un adulte, il a fait ses choix, et donc il y a des choses que l'on ne peut pas remettre en question, donc on peut en parler gentiment, mais il faut faire très attention. Donc bien sûr, on n'est pas chargé d'éducation, mais on ne peut pas laisser l'enfant faire n'importe quoi non plus. On doit être en phase avec ses enfants et ses beaux-enfants dans les choix éducatifs, comme je disais, pour ce qui concerne l'alimentation, le sommeil, les habitudes de vie, la religion même peut-être. Et on doit évidemment surtout pas s'opposer, même pour son petit enfant qui serait alors complètement perdu, et puis ses propres enfants qui seraient furieux qu'on aille à l'encontre des valeurs qu'ils veulent enseigner à leurs enfants. Souvent on dit, ah oui, avec les grands-parents, les petits-enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, ça, j'y crois pas trop, parce que je pense que il faut vraiment pas que le petit-fils ou la petite-fille devienne un véritable tyran quand il est chez ses grands-parents, parce que sinon, on tiendra pas le coup. On a souvent moins de patience, je me rends compte, même si on est moins stressé, etc. Avec l'âge, notre caractère évolue, je trouve. Donc, il est quand même très important de poser des limites et un respect des habitudes, du lieu, de là où viennent les grands-parents, parce que on peut pas tolérer n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, non, le petit enfant, il est important aussi qu'il développe aussi ses valeurs de respect par rapport à ses grands-parents, par rapport au lieu où habitent ses grands-parents, par rapport à la façon de vivre de ses grands-parents. Donc je pense que aussi la grand-mère, elle est aussi beaucoup là pour poser un cadre sur les bases d'une tradition familiale. On est là, on dit souvent, pour des transmissions. Et je pense que des transmissions aussi du bagage familial, c'est-à-dire, par exemple, moi je sais que ma maman était charentaise et elle nous a transmis des expressions qu'elle entendait elle-même de sa maman, que moi j'ai entendu dire. Et je pense que ça, on doit transmettre cela à nos petits-enfants, à nous, ces expressions charentaises, comme dire, quand on est bien, on dit « oh, je suis benaise », quand on a trop mangé, on dit « je suis gueudée ». Voilà, des expressions qu'il est important aussi de transmettre, qui font partie du patrimoine génétique de l'enfant, et des habitudes de vie aussi qu'on a envie de transmettre à nos petits-enfants, que l'on a vécu, par exemple, une certaine façon de prendre certains repas. Moi, je me souviens, chez mes grands-parents, on faisait souvent ce qu'on appelait des goûters-dîners. Alors, c'est pas les brunchs, mais c'est à la place du goûter, on faisait un véritable dîner. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on a envie de transmettre. Il y a vraiment des choses qui sont inscrites dans les gènes de l'enfant, comme ou célébrer Noël, ou raconter aussi les histoires des grands-parents, des arrière-grands-parents. Un peu comme si les grands-parents, c'était le tronc de l'arbre, et que les enfants et les petits-enfants, c'était des branches. Eh ben, il faut que ce tronc, il soit solide, et que ce tronc, voilà, il raconte ce qu'il est pour que les branches puissent bien pousser. On sait très bien aujourd'hui que tout est inscrit dans l'ADN de nos petits-enfants et que certaines choses des générations passées peuvent les marquer dans toute leur vie et qu'ils aient beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils ressentent telle chose, pourquoi ils ont tel caractère, alors que ça vient de ce patrimoine génétique qu'on appelle l'épigénétique. L'ADN de nos enfants et nos petits-enfants a en mémoire les événements marquants de leur vie, de leurs ascendants. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important de raconter l'histoire de nos ancêtres en faisant comme une belle histoire ou des petites anecdotes ou des habitudes. Ça, je pense que c'est vraiment un des rôles fondamentaux que l'on a auprès de nos petits-enfants. Ensuite, je pense qu'on a aussi un rôle important à jouer de soutien pour nos enfants. Si on peut aider pour des conduites, pour des gardes, par exemple le mercredi, il y a d'ailleurs des sites qui se développent pour ça, pour faire certains repas ou préparer certains repas. Ça, c'est important, mais c'est vrai que comme aujourd'hui, on est dans la vie active, nous, en tant que grands-parents, c'est pas facile. En fait, moi, je me rends compte souvent que certains de mes enfants pensent que je travaille pas et que je suis vraiment disponible tout le temps. Donc c'est un peu jongler avec quelqu'un qui va nous aider, reculer un rendez-vous, reculer un interview. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle important à trouver une organisation qui rende possible cet accompagnement. Parce que je pense que c'est un service important à rendre aussi pour le couple de nos enfants, pour qu'ils aient du temps aussi pour eux, pouvoir par exemple garder le temps d'un week-end ou une soirée pour qu'ils puissent sortir prendre un dîner ensemble ou une semaine de vacances. Et ça, c'est ce qui va aider aussi le couple de nos enfants à se retrouver, à passer du temps ensemble, et ce qui va les aider à faire une construction durable du couple et assurer un lien fort aussi, bien sûr, entre l'enfant et le petit-enfant. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en vieillissant, comme je disais, on n'a parfois pas toujours la patience pour s'occuper de l'enfant de 7h du matin, parce que souvent ils sont très matinaux, jusqu'à 20h du soir. Donc si on en a la possibilité, il faut pas hésiter, soi-même en tant que grand-mère, à se faire aider, prendre une babysitter pour certains moments, parce que c'est aussi une certaine fatigue, on est vraiment accaparé, et puis on risque de voir avec crainte ce moment de garder les enfants, nos petits-enfants revenir chez nous pour une petite période. Je pense aussi, auprès de nos enfants, on peut transmettre une certaine expérience que l'on a de maman, mais il faut rester très humble, parce que on peut très bien entendre « oui, mais à ton époque, c'était comme ça. Ah oui, mais regarde un tel ce qui est devenu, donc c'était pas forcément une réussite. » Donc, rester très, très prudent. Je pense pas qu'on ait vraiment un rôle important de conseil, peut-être un rôle de raconter ce qu'on a vécu, mais éviter le plus possible les conseils, je pense.
Ensuite, on a un rôle qui est beaucoup plus de douceur, de jeu, des petits cadeaux, des bons petits plats, raconter des livres. On a beaucoup, on a beaucoup plus de temps, on est moins stressé, donc on peut faire beaucoup plus de choses dans le temps, dans le calme, parce qu'on n'est pas pressé par notre travail, on n'a pas le stress, on n'a pas la routine de la journée qui pèse sur nous. Et là, à ce moment-là, une grand-mère qui décide de passer une journée, un moment, un week-end avec ses petits-enfants va donc avoir beaucoup plus de temps puisqu'elle va lui consacrer tout son temps à son petit-enfant. Et donc, et au plus, elle va pas être stressée. Au contraire, elle va être vraiment calme. On va être pas préoccupée par les dizaines de tâches à assumer à la maison, par les devoirs à faire pour le lendemain, par je ne sais quoi encore. Et on va se consacrer entièrement dans ce moment-là, ce petit enfant. Et donc, on va pouvoir s'en occuper avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, et puis justement dans la joie et dans la bonne humeur, puisque ce temps que l'on donne, je pense qu'il faut que ce soit un temps précieux qui va faire qu'on va créer un lien, qu'on va créer de jolis souvenirs, une mémoire. Et donc, c'est vraiment un lien qui doit être d'une grande qualité et marquer en fait cet enfant. Ce qui est très intéressant aussi, moi, ce que je remarque avec nos petits-enfants, c'est que ils nous forcent beaucoup à rester jeunes et en forme, hein, parce que quand on doit, vous savez très bien, quand on a un petit enfant qui a 18 mois, son meilleur jeu, c'est quand on veut l'attraper, c'est de courir, donc il faut courir derrière lui, il faut jouer à cache-cache, souvent on leur apprend à faire du vélo, donc faut être capable de courir derrière le vélo, ils aiment bien qu'on les emmène à la piscine, moi je me souviens quand on va au bord de mer, ma petite fille, elle adore qu'on fasse 50 allers-retours en courant et en se donnant la main, dans la mer, et on revient et on repart et on nage, et donc c'est formidable aussi parce que ça nous permet aussi une nouvelle jeunesse et de nous remettre en forme. Je pense aussi, comme pour toute chose, qu'il est important aussi, si on peut, hein, bien sûr, de mettre en place des rituels avec ses petits-enfants. Les enfants aiment beaucoup les rituels, et je pense que c'est ce qui va marquer leur mémoire. Par exemple, une fois par semaine, mais toujours le même jour, on va aller chercher à l'école. Par exemple, il y a un restaurant où on va avec sa grand-mère, et c'est toujours celui-là. Par exemple, les activités de jardinage, on va les faire avec sa grand-mère, ou on va aller faire des musées. Et à ce moment-là, on instaure vraiment une complicité qui va marquer leur mémoire. Moi, je me souviens aussi d'une grand-mère qui était formidable et qui, à chaque 10 ans de ses petits-enfants, organisait un voyage que tous les deux. Donc ça pouvait être, je me souviens, un voyage en Égypte d'une semaine. Ça aussi, c'est formidable d'instaurer des rituels. Donc bien sûr, on va s'adapter au fur et à mesure que l'enfant grandit, puisqu'on ne va pas proposer la même chose à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 15 ans. Mais l'important, c'est quand même, je pense, de maintenir une relation régulière qui peut permettre même à un adolescent, justement, d'avoir plus quelqu'un de confiance à qui il va pouvoir parler ses soucis, alors que à ce moment-là, il a plus de mal à en parler à ses parents à cet âge-là. Donc il faut vraiment maintenir une relation, je pense, trouver une solution pour maintenir une relation. Je pense aussi que la relation avec justement le petit enfant se crée et se fonde et est solide à partir du moment où on commence très jeune, hein. On peut pas dire oh, les bébés ça m'intéresse pas. Je pense que l'important c'est de commencer tôt. Moi je sais que j'ai mon fils qui a deux jeunes enfants vivait au Koweït, et donc je souhaitais absolument y aller très régulièrement pour justement construire ce lien fort avec ma petite fille. Donc j'y allais toutes les 6 semaines, et à ce moment-là, des bébés, on construisait ce lien, mais même de moi envers elle, le fait de la voir grandir, de la voir évoluer, c'était extrêmement important pour justement créer ce lien fort entre nous. Et justement, à ce propos-là, je trouve qu'il y a une chose qui est plus difficile aujourd'hui pour nous en tant que grand-mère ou que grands-parents, c'est que les enfants sont beaucoup plus mobiles. Avant, les générations vivaient ensemble, ce qui était vraiment très fort aussi pour les petits-enfants. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir. On a nos enfants, ils peuvent partir vivre au bout du monde, et on aura eu ce contact quotidien pendant 3, 4, 5, 6 ans, et du jour au lendemain, terminé. Et c'est quelque chose que je trouve difficile à vivre. Donc bien sûr, il faut, on peut trouver des solutions, hein. On peut trouver des solutions pour maintenir une relation de qualité, comme je disais tout à l'heure, faire des voyages régulièrement là-bas pour plusieurs jours. À ce moment-là, on vit le quotidien, et c'est encore autre chose que le fait d'aller les chercher à l'école tous les jours qui crée une relation courte. En fait, là, on les voit vivre. On peut faire des visios sur l'ordinateur, leur parler, envoyer des cartes postales, s'échanger des courriers, envoyer des livres, on peut trouver des tas de solutions pour ne surtout pas être coupé de nos petits-enfants, mais c'est quelque chose dont il faut se renforcer, quoi. Il faut s'armer, il faut pouvoir être capable voilà de pas trop souffrir, parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement et qui sont pas faciles. Il peut y avoir aussi tout d'un coup un de nos enfants qui décide que on n'a pas agi comme il fallait, et puis on qui crée une distance entre les petits enfants et les grands-parents. Moi, je l'ai connu pour certaines de mes sœurs, et c'est quelque chose de très violent, hein, et contre lequel on peut rien faire. En fait, il n'y a pas d'obligation de voir ses grands-parents, donc on peut s'attacher énormément, et puis du jour au lendemain, bah, on perd ces personnes, et c'est violent. Donc il faut vraiment être très vigilant sur le rôle, sur la présence, sur les paroles, etc. Alors, en revanche, je dois dire que je ne m'attendais pas à une relation aussi forte avec nos petits-enfants et autant d'amour, en fait. Pour moi, ce n'était pas mes enfants, donc j'allais les aimer moins. Et en fait, ils se créent une relation, mais avec un amour très, très, très fort. Hein. Je peux en témoigner, c'est vraiment un amour très fort que je ressens pour mes petits-enfants. Beaucoup de tendresse, beaucoup de... rien de les voir, c'est beaucoup de joie. Et puis, ils nous permettent de revivre des moments, mais d'une force extraordinaire, comme je pense qu'on l'a tous vécu, mais la joie d'un jeune enfant qu'on va chercher à l'école, où là vous voyez son regard, son sourire, et il crie, il vous court dans les bras. Ils nous permettent de vivre des moments mais très 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 forts, ou alors avoir un jeune enfant qui vous tient par la main, qui va justement courir dans l'eau avec une confiance totale en vous, c'est formidable. Ou alors une autre fois qui se blottit contre vous pour écouter une histoire, ou pour faire ensemble la chercher, pour trouver, ou la joie de bonheur très simple, comme faire un jeu de société à deux, faire un gâteau. Et donc, c'est vraiment la possibilité de vivre des moments d'amour, mais extrêmement forts, et aussi revivre ces moments fabuleux d'expression d'enfants, enfantines, qui sont vraiment extraordinaires. Donc, c'est vraiment, moi, je peux en témoigner, c'est vraiment un rôle extraordinaire, et je pense qu'il est important d'y réfléchir et de le prendre au sérieux, et justement de ne pas oublier que ces jeunes enfants, que ces enfants ont dans leur gène tout ce patrimoine des générations passées, et qu'on est là pour raconter, pour créer un lien qui va être bien différent de celui qu'ils ont avec leurs parents, mais qui va être un lien peut-être de guide, de conteur, de partage d'expérience, etc. Et qui va les aider beaucoup aussi dans leur vie à se construire d'une manière équilibrée.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.